Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné et je suis accompagnée de Ndaya et vous écoutez le Thé Noir. Dans cet épisode, on va vous parler du commérage et pourquoi ça nous plaît autant de parler des autres. Bonne écoute! Bon, alors, on va poser les termes. On parle souvent ici de sororité solide entre femmes noires, de transparence. On vous parle de tout ce qu'on a appris tout au long de nos petites vies de trentenaires et plus, en espérant que parfois cela peut inspirer certaines personnes, mais surtout que ça provoque chez vous des réactions qui vous donnent envie de partager des choses avec des gens et de grandir aussi dans des conversations qui peuvent être parfois inconfortables. Comme a dit un très cher prophète, si vous voulez être les meilleurs, soyez les meilleurs. Voilà. Ouais. Et donc, on aspire chaque jour à être meilleur. Et alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un plan qui est important, fondamental et qu'on voulait absolument décortiquer, qu'on appelle couramment le Congo-san. Mm-hmm. Alors, première chose qu'on va dire, c'est que on dit tout le temps que les femmes sont des commères, et quand on parle d'une commère, on voit toujours une dame avec ses bigoudis en train de tirer un petit rideau et regarder ce qui se passe dehors.
Et elle appelle sa voisine voilà. pour dire « t'as vu, regarde ».
T'as vu le voisin avec sa longue robe de chambre, etc. Et alors, première chose que je vais vous dire, c'est que, étant une femme ayant grandi dans un environnement très masculin, je le répète encore une fois, je n'avais que des frères, et donc mes frères, leurs amis, etc. J'ai évolué pendant une grande partie de ma vie entourée énormément de garçons. C'est faux, les plus grandes commères sont les hommes.
Merci.
Pas les femmes, les hommes, les messieurs. Première chose.
Je pense qu'on peut s'arrêter là, voilà, on a rétabli toute la vérité. Pas besoin de développer.
Rien que la vérité.
Que ça. Voilà, c'est très clair, voilà, merci à tous.
Voilà. On va en parler, on va dérouler un peu le sujet, mais si on devait vous donner une définition de ce qu'est le commérage, ce sont des conversations indiscrètes ou un échange qui ne vous concerne pas. Donc, il y a une petite... On va essayer de voir un peu la distinction entre parler des gens, médire sur les autres. C'est ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui et,
ouais, moi c'est
et voilà je
le
pense
truc que je trouve intéressant c'est vraiment de faire la distinction entre les deux ouais. Que le commérage en fait c'est pas forcément toujours quelque chose de négatif et que ça nous arrive beaucoup de parler des gens, ça arrive à tout le monde, genre personne n'est exempt en fait et,
exact.
Mais il y a une différence entre ceux qui parlent pour médire et ceux qui parlent juste pour s'informer et moi ce que j'ai trouvé intéressant justement c'est que il y a des sources aussi qui en parlent, t'as le Frontiers in Psychology, c'est une étude qui a été publiée en 2019 où ils ont utilisé un panel, ils ont suivi un panel de 500 personnes je pense sur les conversations qu'ils avaient, mm-hmm. Ils ont essayé de faire une sorte d'étude en fait d'avoir la propension de conversations qui étaient liées à des ragots ou pas etc. Et tout ça pour se rendre compte que la majorité en fait des conversations qui avaient lieu relevaient du commérage mais restaient neutres. Donc c'est ça la bonne nouvelle du jour, c'est que non, on va pas vous dire qu'il faut arrêter de commérer, mais dans cet épisode, on va parler du fait qu'on peut commérer, mais de manière saine. Et ça, ça va changer nos...
Parfois, c'est pour avoir des plans intéressants, parce que du coup... Mais attends, en vrai, par exemple, quand tu veux organiser l'anniversaire surprise d'une personne qui t'est proche, mm-hmm. ça fait partie des commérages. Parce que du coup, vous allez parler sur la personne, essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle fait, à quel moment. Oui, mais moi, elle m'avait dit que, elle était avec un tel, etc. Est-ce que ça rentre dans le commérage?
Non, quand on dit commérage, c'est un terme péjoratif, c'est vrai. Clairement, ça va être considéré comme péjoratif, mais le fait en fait, ce qui a été prouvé dans cette étude, c'est que la majorité de nos conversations ne nous concernent pas, en fait. C'est plus dans ce sens-là. Et j'y pensais, en fait, dans le sens où ce qu'on nous explique, en fait, c'est que la communication, la parole, c'est notre premier moyen de communication, en fait. Et ça va être la base de toute notre société. Donc, quand tu vas parler avec moi, on va échanger, on va faire de l'échange d'informations et ce ne sera pas forcément quelque chose de négatif, en fait. Et je mets bien l'idée, en fait, que tu as plusieurs spécialistes qui expliquaient que le commérage ou le fait d'avoir des conversations sur d'autres personnes permettait de maintenir une sorte de cohésion sociale. Et ça, je trouvais ça trop drôle parce que je me dis, mais quand on parle de commérage, le premier truc qui te vient à l'esprit, c'est pas du tout la cohésion sociale, tu vois, c'est la division. Je
te dis, mais
comment ça, moi, en parlant de la vie de quelqu'un d'autre, je maintiens la cohésion sociale?
Il faut bien m'expliquer.
Ça, en fait. Voilà, tu vas jamais t'imaginer ça, mais en fait, quand tu prends des exemples, tu comprends que, en effet, c'est peut-être ça, en fait. Parce que moi, je pensais, pour prendre exemple sur quand on est enfant, combien de fois on a entendu nos parents discuter de certaines choses, en fait, de gens qu'on connaît même pas, tu vois. Je vais prendre un exemple qui n'existe pas, mais d'avoir entendu mes parents dire « Non, mais tu te rends compte, un tel, il a engrossé machin, alors qu'ils sont pas encore mariés, etc. Et » Et moi, je ne sais pas de quoi ils parlent. Je ne sais pas ce que c'est d'engrosser quelqu'un. Je ne sais pas ce que c'est de se marier, d'engrosser avant le mariage, etc. Je n'ai pas conscience, en fait, de toutes les répercussions. Mais le fait d'être enfant et d'entendre mes parents dire ça, comme mes parents, c'est une référence pour moi, et ben, dans ma tête, j'ai intégré que ah, ça, ce n'est pas accepté, tu vois, dans la société. C'est inacceptable de faire un enfant en dehors du mariage. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai compris un peu ce que ça voulait dire, le fait de maintenir une cohésion sociale. C'est qu'en entendant des récits d'autres personnes, etc., régulièrement, et ben tu comprends ce qui est accepté et ce qui n'est pas accepté par la société, tu vois. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je pense que c'est dans ce sens-là qu'il l'explique, en fait.
Oui, ça te permet d'avoir certains codes et une façon d'agir sur certains sujets.
Ouais, c'est ça.
Et après, t'as des grandes réunions, quoi. Enfin, moi, quand je repense à l'enfance ou quoi que ce soit, ou même juste dans la cour de récré. Tu sais, parfois t'arrives, tu vois une telle personne qui est avec un certain enfant, et puis telle autre personne n'est pas avec cet enfant-là, et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, elles se sont disputées. Ah non, mais c'est parce qu'elle, elle va changer d'école, donc elle le vit mal, etc. Enfin, comme tu dis, ça peut avoir cette portée informative, où tu vas voir un enfant qui pleure dans la cour, tu vas essayer de savoir pourquoi cet enfant pleure. Et au moins, ça t'évite, tu sais, d'avoir cette approche en te disant « Pourquoi tu pleures? C'est bon, ça fait tant de temps qu'on est rentré à l'école, t'as toujours pas compris qu'il faut pas pleurer. » Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ça et que c'est un problème personnel et que du coup, tu vas avoir une approche différente et tu peux avoir de l'empathie vis-à-vis d'un enfant qui vit une situation difficile parce qu'on t'aura prévenu en amont que, bah, en fait, il s'est passé ça dans sa vie. Donc du coup, cet enfant-là, aujourd'hui, risque de pleurer toute la journée, quoi.
Exactement. Tu vois, si tu passais au milieu de la conversation, tu te dirais, mais pourquoi ces gens, ils sont en train de parler de cet enfant? Mais ils se prennent pour qui? Qu'est-ce qui va pas chez eux? Pourquoi ils racontent tout ça alors que t'as pas conscience, en fait, du but derrière? Ouais, c'est vraiment intéressant. Et moi, quand j'ai repensé, justement, à tout cet aspect-là de socialement acceptable, eh ben, je me suis rendu compte, en fait, que c'est en écoutant les gens qu'on comprend plein de... on comprend plein d'enjeux, en fait, par rapport au monde. Et je me dis, moi, c'est comme ça que j'ai compris ce que c'était l'homophobie, tu vois. Parce que des fois, il y a des choses que tu entends, mais il y a aussi le non-dit qui te fait comprendre qu'est-ce qui est accepté et qu'est-ce qui n'est pas accepté par ta communauté ou par ta société. Et moi, franchement, je pense que c'était l'homosexualité. Si j'ai réfléchi dans les familles africaines, il y avait beaucoup de choses où tu allais entendre certaines remarques, tu allais te dire, mais... pourquoi ça les dérange, ça? Et là, tu comprends, ah ouais, donc en fait, par exemple, l'homosexualité, c'est pas du tout accepté chez nous, tu vois. Tu comprends qu'il y a des choses qui sont diabolisées, et après, tu vas entendre les mêmes conversations dans d'autres communautés, et tu vas te dire, ah d'accord, donc en fait, c'est juste chez nous que ça passe pas, ça. D'accord. Donc, je comprends cette importance, en fait, du fait de dialoguer et de discuter de la vie des autres, ouais, sur ce point précis. Après, je trouve aussi qui a un côté que je trouve intéressant, en fait, par rapport au commérage, c'est que j'ai l'impression que ça permet de renforcer certains liens, tu vois. Ou de renforcer certains liens dans le sens où tu vas... je vais prendre un exemple, j'essaie de chercher à quel potin il y a eu en ce moment, là. Je réfléchis. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a eu comme potin?
Alors, on avait discuté de cette histoire et tout. Je me rappelle, on avait eu un dîner avec plusieurs copines. C'était à l'anniversaire de Lorraine, voilà. On est 4 meufs à table et je suis en train de leur expliquer. Moi, j'aimerais bien avoir vos avis parce que j'ai entendu une histoire d'un gars qui est parti en soirée Et il dansait collé serré avec une fille et tout. Et apparemment, bah, il y aurait une vidéo qui aurait tourné de lui en train de danser collé serré avec cette fille. Et la vidéo, sa meuf, elle l'a vue. Et en gros, bah, bref, il a eu des problèmes à la maison parce que sa meuf, elle a vu la vidéo. Et donc, on était quatre filles et je voulais vraiment avoir les réactions de qu'est-ce que vous en pensez. Et on était deux à dire, mais c'est juste une danse. Et on était deux autres à dire, mais c'est très grave, moi je considère ça comme une infidélité, etc. Et c'était trop drôle parce qu'on était vraiment en train de se dire, mais tu vois, en fait, on est d'accord sur plein de choses, mais il y a des choses sur lesquelles on va être complètement scindés. Et donc la fille avec qui j'étais d'accord, on était en train de se dire, mais tu vois, tu me comprends, moi, tu me comprends. Non, mais les autres, elles ne comprennent rien. Et je trouve qu'il y a vraiment ce côté, en fait, où quand tu racontes des histoires, ben, ça te permet de savoir avec qui tu as beaucoup plus d'affinités, avec qui vous avez les mêmes valeurs aussi, et comment vous allez avancer ensemble, ou justement vous rendre compte que on n'est pas du tout ensemble, tu vois. Même quand on entend toutes ces histoires, je pense qu'il y a plein d'amitiés qui se sont brisées en parlant de politique, tu vois. Moi, demain, si je me rends
Bien
compte
sûr.
que je commence à avoir des conversations sérieuses avec des proches et qu'ils commencent à avoir des idées qui penchent de plus en plus vers l'extrême droite, je vais me dire, ah, bah tu vois, c'est bien qu'on ait eu ces conversations. Il est peut-être temps qu'on sépare les chemins parce que là, on ne va jamais être d'accord sur ça. Ça, c'est vraiment intéressant.
Non, mais c'est vrai, parce que du coup, tu vois, moi, je repense aux événements qui se sont passés, qui se passent actuellement entre Israël et la Palestine. Je sais que c'est un sujet que je n'aborde pas avec certaines personnes. Parce que tu te dis que, déjà, un, vous n'allez pas prendre mon énergie parce que, voilà,
Voilà.
ça sert à rien de prendre mon énergie juste pour prendre mon énergie, pour prouver un truc, etc. Enfin, il y a du bien et du mauvais, enfin, il y a de la dimension à donner à toute chose, tu vois. Mais ce genre de conversation, ça te permet aussi de savoir les valeurs qu'ont certaines personnes, voir ce qui est important, ce qui n'est pas important, etc. Et ensuite, en fait, quand tu commences, ce qui est très drôle quand tu es en société, c'est que tu commences toujours avec un sujet très, très sérieux. Et ça finit toujours à découler de savoir, bon alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre? Et tu dis
Au
que...
secours, sortez-nous de là! Sortez-nous de
Non,
là!
mais en fait, ce que j'ai remarqué en grandissant, et ça m'a toujours un petit peu perturbée, c'est que je m'étais dit, ah, bah, quand je serai grande, je comprendrai la politique, que je sais pas. Tu sais, j'imaginais ça, genre... Tu vois, nous, on avait des conversations de cours de récré qu'on pourrait appeler de commérages. Oui, mais un tel, elle a fait un bisou à un tel, mais en fait, c'est fini. Et alors, du coup, elle s'est mise avec l'autre, mais elle aurait jamais dû se mettre avec lui parce que lui, c'est son pote, même s'il se parle plus en ce moment. Enfin, tu vois, tout le monde qui se mélange et qui parle un peu de tout ça. Et j'avais l'impression, quand j'étais plus jeune, que en grandissant, nos conversations allaient plus aller vers du conflit israélo-palestinien, de l'affaire Strauss-Kahn, de l'état de la géopolitique en 2024, des choses comme ça.
Exactement.
Et au final, maintenant que j'ai vieilli, et même j'ai dit l'affaire Strauss-Kahn, mais l'affaire Strauss-Kahn,
Ça date.
quand je me souviens, ça date, mais dans ma mémoire, là, quand on est en train d'en parler, j'ai l'impression d'avoir plus entendu les avis autour de la situation plutôt que des faits concrets. J'ai plus entendu dire des gens, oui, mais t'as vu sa femme, comment elle peut cautionner ça? Mais d'ailleurs, moi, si mon mari et machin. Et tu vois,
Mais
c'est
tu vois,
devenu
c'est
tout
ça, c'est
un autre.
l'essence du
Ça a pris une
commérage.
dimension.
C'est vraiment l'essence du
Non, mais tu sais,
commérage.
ça a pris une dimension. Et je me disais, mais c'est pas possible. Moi, pour moi, quand tu vieillis, quand tu grandis, t'as des vraies conversations. Moi, je me voyais, tu sais, déjà à table avec des conversations. Non, mais tu peux pas dire ça quand on reprend l'histoire
Ah oui,
en
toi, tu pensais que tous les jours, ça allait être
1978 et
Stéphane
machin.
Bern. Bon, c'est pas
Exactement.
possible.
Exactement. Mais tu sais, quand
Oui.
t'es jeune, tu t'imagines de ces trucs. Et c'est pour ça que, tu vois, aujourd'hui, il y a certains sujets que je décide de ne pas aborder avec des gens. Et de temps en temps, quand je suis pas sûre de toi, on va aller sur un terrain. Et comme ça, je saurai, en fait, ça va me permettre d'avoir une boussole. Je me dirais, en fait, ça me dit, ah, donc là, j'ai parlé avec un tel, sur tel, tel, tel point, on est à peu près d'accord. Ok, c'est quelqu'un que je garde dans mon cercle. Là, je vois que, comme tu as dit tout à l'heure, des gens qui vont pencher trop vers un extrême, etc. Je veux dire, en fait, on va se voir de temps en temps, ou
Voilà,
un
on va
petit
se
peu
voir un peu
moins, et d'un
moins.
petit peu moins.
Maintenant, je sais qu'on n'est pas les pires proches,
Non,
en
je suis
fait, quoi.
vraiment. Voilà, je suis vraiment désolée, j'ai pas le temps, mais on essaie de se faire un truc le mois prochain, ou on essaie de machin. Et du coup, ça permet aussi, tu vois, d'équilibrer, entre guillemets, d'équilibrer le tout, tu vois, parce que, oui, tu vois, il peut avoir des commérages informatifs. Je me souviens, tu sais, toute la période où on parlait de Chadwick Boseman.
Oui.
Sur sa perte de poids, les machins, etc. Et quelques mois après, il est décédé. Mais toute la période avant, les gens, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Donc tous les gens qui avaient parlé avant, voilà, la conversation a changé. C'était vraiment genre, oui, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. On ne sait jamais ce que les gens peuvent vivre, etc. Et donc, dans ce cas-là, il dit, ouais, mais c'est bien, il y a un côté un peu informatif. Mais là, quand je vois comment les gens peuvent parler, par exemple, de Georgia Smith, je me dis, bah, la nana, entre le moment où les gens l'ont découvert et les gens, ce qu'elle est aujourd'hui, bah, les gens, ils reparlent pareil. Pareil pour Rihanna, elle a fait une interview il n'y a pas longtemps où on lui disait, mais c'est quoi le truc le plus fou que tu aies fait en termes de style ? Elle dit, ouais, dans ma vingtaine, je me suis amusée, je sortais, j'avais les tétons en l'air, les fesses à l'air, j'étais presque à poil. Elle dit, aujourd'hui, je suis quand même une femme de 30 ans, je suis maman, il y a des trucs que je... Il y a des choses que je ne ferai plus, tu vois. Et les gens sont là, je dis, ah, donc ça veut dire que... Ben non, mais elle, c'est son choix. Mais commencer à faire des palabres.
Les gens aiment bien suranalyser et dire, donc qu'est-ce qu'elle veut dire ? Ça veut dire que les autres mères qui font ça, machin. Non, c'est juste, elle n'est pas...
Ça devient affaire de palabres.
Voilà, ouais.
Ouais, ça devient... Il y a des mamans qui portent des tout petits habits. Elles sont très à l'aise avec le fait de porter des tout petits habits, hein.
Exactement. Mais en plus, tu sais, elle dit ça alors qu'une autre célébrité se dirait « Je pourrais jamais faire comme Rihanna, qui portait tout le temps des minis et des crop tops et tout quand elle était enceinte. » Donc chacun sa vision de son style et de ce que tu vas te permettre selon l'étape à laquelle tu es dans ta vie.
Non, mais autre vidéo qui, je pense, enfin, ce type de vidéo, on apporte aussi beaucoup de commérages sur les réseaux, c'est, je suis tombée sur une vidéo d'un garçon qui danse avec une femme. Mais la femme a l'air jeune, etc. Et tout. Et en fait, quand tu lis la légende, c'est « Merci maman pour tout ce que tu as fait pour nous. J'en serais pas là si tu n'étais pas la femme que tu étais. » Mais tu sais comment il danse ? Il danse un compas ou un zouk, etc. Il passe derrière sa mère et tout. Pour moi, il danse juste. La vague de commentaires de « c'est pas possible, c'est pas sa mère, c'est le surnom qu'il donne à sa sugar mama, c'est pas normal, qui danse comme ça avec sa mère, mais vous avez été élevé chez les fous, pas ça dans le monde, ni de machin, etc. » Mais tu vois, ça, c'est un truc pour dire, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a des cultures différentes dans le monde. Ce que vous interprétez comme un comportement indécent ne l'est pas forcément quand tu vas dans un autre endroit. Et on devrait utiliser ce genre de moment pour s'informer.
Ça veut dire que dans ta société, en fait, juste tu confirmes que c'est pas acceptable. Là où tu vis maintenant, ok, admettons. Mais ça veut pas dire que ça ne l'est pas dans un autre endroit, en fait, c'est tout.
Mais exactement ça, tu vois. En fait, ça... À part tous venir parler.
Ces conversations-là, on voit toujours les mêmes débats qui reviennent quand on voit les danses, caribéennes, quand on voit les vidéos de carnaval, etc. C'est toujours le même débat. On va toujours nous dire c'est trop sexuel. Vous n'allez pas me faire croire que c'est pas sexuel, etc.
Je t'avais envoyé la vidéo là du gars qui danse. Je pense que c'était le carnaval. C'était à Trinidad. Je sais plus. Enfin, là, c'était la série des carnavals dans les des carnavals. J'ai eu un moment de bug. En tout cas, la série de la fête là.
Oui.
Dans les îles, dans les Caraïbes, etc. Donc il y avait la Barbade, Trinidad, etc. Et en fait, il y a une vidéo, je pense que je t'ai envoyée, où on voit une nana qui est en tenue de carnaval et il y a un monsieur derrière qui est en tenue de carnaval. Et en fait, je suis tombée sur un mec qui disait, vous voyez, c'est ça le carnaval. Parce que la femme a très peu d'habits sur elle, hein, comme elle est en tenue de carnaval, le monsieur également. Mais tu vois, elle commence à danser, à whiner, machin, ils se regardent et ils continuent à danser ensemble. Et donc, les commentaires, le mec a dit, vous voyez, c'est ça en fait le consentement dans le carnaval, c'est pas vous, vos trucs, vos sauvageries, vous passez, vous tapez sur les gens, vous accrochez des trucs et tout, vous pincez et tout.
Apparemment, non, ça c'est pas ça. Ils ont pris beaucoup de balles perdues. Hein. Il paraît que Notting Hill, ils sont plus du tout. Il n'y a plus d'organisation là. C'est que des gens déchaînés.
C'est vrai.
Et apparemment, en plus, il y a de moins en moins de Caribéens aussi dans ces célébrations. Et du coup, ils disent, ouais, ça devient le désordre, en fait, Notting Hill. Plus personne ne veut y aller, en fait.
Oui, mais parce que les gens voient les images sur les réseaux, ils ont l'impression que c'est la folie. Moi, je me souviens, le dernier qu'on a fait toutes les deux, ça remonte un tout petit peu. Mais moi, je me suis jamais sentie... Tu sais, quand je disais aux gens, ouais, je vais au carnaval de Notting Hill, ils disaient, oh là, tu vas au carnaval de Notting Hill? J'ai dit, bah non, je pourrais y aller avec mes enfants. En fait, c'est tellement bon enfant. C'est dans ça. La file, quand tu marches, etc. Oui, Il y a...
Selon la journée. Parce qu'on a quand même choisi la journée famille. C'est ça aussi.
Oui, oui.
Mais apparemment, la journée qui n'est pas famille, ça devient de pire en pire. Et j'avais vu une conversation, en fait, entre plusieurs femmes noires de Londres qui expliquaient qu'elles trouvent qu'elles sont hyper sexualisées par les hommes qui viennent d'autres pays juste pour le carnaval. Et elles disaient, en particulier, les hommes noirs de France.
Les Français.
Surprise !
Mais bien sûr. Mais bien sûr, eux ils viennent en bande, ils ont dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. Mais tu sais, nous quand on avait été là, il y avait.
La visite Rwanda, il m'énerve.
Mais tu sais, mais justement, il y en a un là. Il y en a un en survêt de PSG qui avait commencé à nous parler avec son anglais. Et j'étais là, genre, yeah, sure, of course. Là, j'ai sorti mon meilleur accent british vraiment pour dire qu'on n'est pas ensemble en fait.
Il a dit, where you from? On a dit, waouh, le français. J'ai direct.
Elle a dit, waouh!
Ton truc du non, PSG, mais... là, t'as même pas honte.
Mais en plus, on peut les repérer à 1000, c'est ça qui est trop drôle. Non, on les repère incroyable. Vraiment à 1000.
Mais oui, on les connaît. Non, franchement, c'est abusé qu'on ait tellement une mauvaise réputation dans le. Même en Angleterre,
dans le
game. On sait que les mecs français, là, ils viennent juste faire du désordre. Purée, c'est dommage. Hein.
Bah,
c'est vraiment dommage. Mais franchement. Il y a un autre truc que je trouvais drôle, et j'ai l'impression que là, c'est quand t'arrives vraiment dans la transition entre conversation positive ou négative, t'es vraiment dans l'entre-deux, c'est quand tu vas voir une situation, tu vas critiquer la personne, mais genre vous critiquez ensemble pour dire oui, on a les mêmes valeurs, ça me rassure. Tu vois, par exemple, je me rappelle qu'il y avait tellement de débats sur quand on a appris que Beyoncé, elle avait été trompée par Jay-Z, tu vois. Et en fait, quand on apprend qu'elle... Parce que j'essaie de me rappeler de la chronologie, mais on est d'accord, quand on apprend qu'il l'a trompée, elle l'a déjà pardonnée, tu vois. C'est déjà... ils sont déjà à l'étape suivante.
C'est déjà passé.
Voilà.
Oui, c'est déjà
Et passé. Ben, je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'hommes qui aimaient trop nous troller sur les réseaux pour dire... Même Beyoncé, elle a dit pardon. Non, toi, tu veux faire la fière quand on t'a trompée, tu veux partir.
C'est
on
ça.
On avait tellement énervé. Et tous les hommes sont entrés en union comme les Power Rangers. Pour nous dire.
Mais vraiment.
Même Beyoncé, elle a dit pardon. Toi, tu veux faire la maligne ici, là. Toi, tu es qui? Ça m'a fait tellement énerver.
Mais c'est pour ça, en plus, parce que tu vois, quand on vient commérer sur le dos des gens, déjà, je vais répéter une phrase que je dis souvent dans ce podcast, on ne se mêle pas des affaires des gens qui se sont vus nus. Vraiment, on ne s'en mêle pas. Et quand t'as des choses comme ça qui arrivent entre des célébrités, ou nous, quand on apprend la chose, on commence à parler gauche-droite.
Alors, si c'était moi, ils ont déjà... alors
Non, mais eux, ils ont déjà géré leur affaire, en fait.
Ouais.
Ils ont déjà géré leur affaire. Donc, quand tu viens faire tes commentaires, c'est pour ça que je dis aussi, quand t'es sûr de toi, si ton gars, il t'a fait quelque chose et t'as décidé de rester avec ton gars, faut pas venir te plaindre après.
Ouais.
Parce que les gens vont parler, c'est naturel. Même si tu leur dis tais-toi, ils vont quand même faire un commentaire.
Exactement.
Mais les décisions que tu prends dans ta vie, quand tu es sûr de toi, quand les gens ils vont parler, ça ne va pas t'énerver. Si ça commence à t'énerver, c'est qu'il y a une partie de toi qui n'est pas sûre.
Exactement. Et je suis trop d'accord. Mais franchement,
parce qu'en vrai, de vrai.
C'est une conversation que ça avait créée. Hein, parce qu'il y avait beaucoup de discussions sur. Bon, ok, Beyoncé l'a pardonné, mais en gros, il y avait une longue liste en fait, de personnes qu'on va considérer A-list. Qui ont trompé leurs femmes, et les femmes sont restées, tu vois. Et j'avais lu un article sur... je ne me rappelle plus le site. Je pense que c'était sur Refinery29, où ils avaient fait un article en fait, qui expliquait que en fait, le black love que vous voyez dans la célébrité, il faut arrêter de le prendre pour le black love en général, en fait. C'est deux black love complètement différents. Donc, il faut arrêter de se dire non, parce que Beyoncé et Jay-Z, c'est un power couple, ils doivent faire ça, ils ont dû serrer les dents, il faut aller sauver leur mariage.
C'est pas vrai.
Ouais, en plus déjà.
C'est
et en
pas
gros,
vrai.
Il faut arrêter d'appliquer ça à votre couple qui fait un 9-to-5, parce que ça n'a rien à voir, en fait. Ils expliquaient que Beyoncé et Jay-Z, vous n'avez même pas idée du nombre de millions de dollars qu'ils peuvent se permettre de dépenser en thérapie de couple, en thérapie de trucs, pour se remettre de n'importe quelle épreuve.
Non, mais je suis désolée, pour moi, ce n'est pas vrai. Parce que, peu importe ce qui arrive entre un homme et une femme, ou entre deux femmes, ou entre deux hommes, quand le couple a décidé de rester ensemble, que vous ayez à partager 10 balles sur un compte commun ou 1 million, ça vous regarde, en fait. Parce que oui, effectivement, tu peux payer des thérapies de couple, tu peux faire ci, etc. je pense qu'il y a aussi une grande part de la volonté de chacun. Et si, par exemple, une femme décide de rester quand son homme l'a trompée, quand elle décide de rester, elle sait ce qui va arriver après, mais elle a pris sa décision en tout état de cause et en pleine conscience. On ne l'a pas forcée.
Ok, ça, je suis d'accord. Mais donc, les enjeux ne sont pas les mêmes pour une célébrité qui est connue dans le monde entier. Elle dit « Achoum », ça change le cours de, ça change le cours de la bourse. Mais tu vois, c'est pas pareil si tu décides de divorcer.
Mais moi, je pars du principe que de la même façon qu'ils peuvent dépenser des millions en thérapie de couple, ils peuvent aussi payer des avocats qui leur permettent de séparer le bien de sorte qu'il n'y en ait aucun qui soit plus lisé que l'autre.
C'est vrai.
Tu vois, les deux côtés sont faciles. C'est très facile de rester ensemble, tout comme c'est très facile de divorcer.
C'est vrai.
Parce qu'en vrai de vrai, oui, peut-être que les enjeux sont pas pareils, mais si t'es dans un couple où vous avez déjà des enfants, vous avez décidé de construire quelque chose en plan. Là, j'ai un exemple. C'est des amis d'amis, en fait. J'ai une de mes copines, elle a un couple d'amis qui ont acheté un appartement ensemble parce qu'ils pensaient être très amoureux et faire finir leurs jours ensemble. Sauf que ils se sont séparés.
Okay.
Et ils sont en cours de divorce, mais ils n'ont pas les moyens chacun d'acheter un appartement séparé. Ben là, ils font des travaux en commun pour séparer l'appartement qu'ils avaient acheté pour pouvoir garder chacun leur part.
Wow.
Et donc, en attendant, ils sont en train de coexister dans un appartement qui est en train d'être divisé en deux.
Mais la maturité de ça, Néné. Attends, là, tu viens de me confirmer. Ah bah, alors... Vraiment, moi, je suis une gamine. Moi, je suis pas une adulte. C'est les vrais adultes. Parce que moi, là...
Non, mais tu sais, quand t'as mis ton argent quelque part, que ce soit 1 million ou 1 000, oui. C'est ton argent, que t'as la sueur de ton front. Tu vas réfléchir différemment. Vraiment, tu vas réfléchir différemment.
Non, tu m'as choquée, là. Une gifle d'adulte.
Non, mais...
Eux, tu
non,
vois,
mais tu vois ce que
les
je
gens
veux...
qui se posent et qui ont des conversations politiques, là. C'est eux, les vrais.
Non, mais tu sais, moi, je les vois comme les gens qui sont dans les séries où le temps d'un divorce, ils sont en train de se séparer, ils n'ont pas encore chacun trouvé un appart, ou ils n'ont pas encore trouvé deux solutions, mais t'en as un qui, pendant une semaine, dort chez un pote, l'autre à l'appartement, et ensuite, la semaine d'après, c'est un peu une garde alternée d'appartements.
Ouais.
C'est comme ça que je le vois.
Ouais, j'avoue. C'est dingue. Pardon, je sais pas si je... franchement, je ne sais pas si j'aurai la maturité de mettre ce genre de choses en place. Mais vraiment, beaucoup de respect pour eux. En tout cas,
franchement,
c'est moi et mon ego. Mais donc, pour faire la transition sur l'ego, c'est bien ça le problème avec le commérage, en fait, quand ça devient négatif, c'est que je pense que c'est l'ego, en fait, qui prend le dessus sur tout, tu vois. On a notre esprit, on a notre intelligence, on a le raisonnement, etc. On est capable d'être vraiment des gens qui savent faire un bon discernement. Mais quand l'ego prend le dessus, en fait, on va juste suivre des choses qui vont flatter notre ego. J'essaie d'expliquer ça, en fait, dans le sens où tu vas un peu hiérarchiser les gens, j'ai envie de dire, selon les actions que tu vas entendre sur eux, que ce soit une personne connue ou pas, hein, que ce soit une personne de ton entourage, une célébrité, où tu vas te dire... tu vois, c'est facile de commérer sur quelqu'un et se dire « Regarde comment elle s'habille, non mais c'est catastrophique, tu vois. Moi, je ne ferai jamais ça. Moi, je suis heureuse d'avoir bien autant sûr. De style. Oh, telle personne, elle est laide, etc. Non, vraiment, moi, j'ai été bénie des dieux. Je ne serai jamais un laidron comme ça. Ouf, merci à moi, hein, tu vois. » Et là, c'est vraiment le moment où je me dis que ça devient problématique. Et franchement, je ne sais pas si je crois au karma, mais je pense qu'il y a toujours une sorte de retour vers l'expéditeur qui arrive quand tu fais trop la maligne comme ça. Je me dis vraiment, faut
pas trop faire la maligne.
Ouais.
Quand la vérité va te rattraper à ta porte comme ça, va. Bonjour. Donc tu avais dit que.
Je te jure.
Non, mais tu sais, c'est. Tu sais, le côté de. Ah, oh, mais c'est trop facile, elle s'est laissée aller, t'as vu. Genre quand tu revois des copines ou des connaissances de lycée que t'as pas vu depuis des années, etc. Oui. Après, tu dis « Ah bah ouais, carrément, bien sûr, on se fait un truc, machin et tout. » T'as vite fait, là, quand t'as fait les 10 pas, là, où tu sais qu'elle va plus t'entendre si t'appelles tranquillement. Tu prends ton téléphone, t'appelles vite. « Non, mais tu sais pas qui est-ce que j'ai croisé. » Oh là 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 là, la vie. Ah, non, mais tu te vois, la fille, là, machin, la numéro 1. T'as vu quand qu'elle vient ce qu'elle est devenue aujourd'hui. En vrai, de vrai, heureusement qu'on nous a pas cala quand on était au lycée avec elle, parce que quand tu vois ce qu'elle est maintenant, t'es là, tu te dis, mais madame, tu ne sais pas ce qu'elle a eu dans sa vie. Et même à ça, en fait, Toi, tu peux être la numéro 1 aux yeux de quelqu'un et la numéro 1000 aux yeux d'une autre personne. Enfin,
mais grave,
c'est pour
grave.
Ça qu'on est aussi multiples. Parce que des goûts et des couleurs, vraiment, il y en a pour tous. Tous. Il y a des gens, leur passion, c'est les personnes qui font 1m50. Pour d'autres, c'est les gens qui font 2m. Pour d'autres, c'est ceux qui ont les vraies gueules, comme ils disent là. Les gens qui ont un nez cassé ou qui ont, tu vois, une cicatrice. Ouais, il y a une bonne gueule, quoi. Une vraie gueule, quoi. Un truc.
Mais après, ce que je trouve intéressant avec ce côté-là, en tout cas le côté négatif, c'est que tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que les gens pensent que c'est moins grave quand tu vas commérer sur des célébrités, parce que c'est pas des gens que tu connais, tu vois, plutôt que de parler sur...
Oui, ça a moins d'impact. T'as l'impression que ça a moins d'impact.
Voilà, t'as vraiment l'impression que ça a moins d'impact, alors qu'au final, pour moi, l'impact qui compte, tu vois, c'est pas spécialement est-ce que la célébrité elle va t'entendre, c'est pas ça, mais c'est juste se dire, ces mots-là ils sortent de ta bouche en fait. Tu vois, est-ce que tu vas être fière des choses qui vont sortir de ta bouche la plupart du temps? Dans ce sens-là, en fait, je me dis, c'est un peu bizarre. Et ça me fait, je me pose vraiment cette question quand je regarde des gens qui sont devenus des stans, puisque maintenant ça n'existe plus des fans, il faut seulement devenir stan, il n'y a plus de juste milieu.
Mais c'est quoi la différence?
La différence, c'est fan, ben, c'est quand tu es ben, fanatique d'une star. Et stan, en fait, c'est un jeu de mots entre stalker et fan, en fait. T'es un stan, littéralement. Et donc, les stans, pour moi, c'est ceux qui se donnent un nom, là. Genre, je suis pas fan de Beyoncé, je suis Beehive. Je suis pas fan de Nicki Minaj, je suis Barbs. Tu vois? Déjà que fan, pour moi, c'était un mot assez extrême, parce que fanatique, attention quand même. Fanatique, ça fait un peu culte. Oui. Mais non, stan, c'est un niveau supérieur. Et je me dis, en fait, ces personnes-là, elles sont... En fait, elle rentre dans tous les points qu'on vient d'aborder par rapport au commérage. C'est qu'en discutant entre elles, là, de tout le temps des mêmes personnes, elles créent vraiment un lien de dingue en tant que groupe. Elles échangent énormément d'informations au sujet d'intérêts communs. De sujets communs. Et elles vont raconter en ligne, elles vont même arriver, là on va arriver à un point où il n'y a pas juste de la médisance, mais il va y avoir aussi des fois de la diffamation, etc., pour un but commun.
Bien sûr.
Et c'est là vraiment que ça me fait peur, en fait, je me dis, on est trop nombreux à se dire, mais est-ce qu'ils vont bien, en fait, les Barbs et les Beehive, etc., genre, comment tu peux mettre autant d'énergie dans ça, dans ta journée, alors qu'au final, on a vu beaucoup d'essais qui ont été publiés, d'études qui ont été publiées, qui prouvent que eh ben, ces gens-là, ils ont tendance à être beaucoup plus heureux que nous, en fait. Et c'est ça que je trouve dingue. Je
dis, mais ils sont plus heureux que nous d'être fanatiques comme ça, ça rend...
Ouais, parce qu'en fait, ils ont une appartenance tellement plus forte, le sentiment d'appartenance, en fait, en tant qu'individu. Apparemment, c'est tout ce qui compte, tu vois, pour nous, pour être heureux. Quant à ce fort sentiment d'appartenance, eh ben, il faut croire que les stans, ils sont beaucoup plus heureux que nous. Apparemment. Okay. C'est incroyable. Je trouve ça incroyable.
Moi, je suis un peu...
Parce que je me dis qu'ils sont capables d'avoir une incidence qui peut être vraiment négative sur la vie des gens. Où il y a eu des instances où, je pense que du côté des Barbs et aussi des Beehive, il y a eu des instances où une personne qui va dire un truc en ligne qui ne leur plaît pas, elle va se faire doxer en ligne, mais on va aussi chercher des infos sur elle, dans sa vie, son bureau, son adresse personnelle, etc. Et tu te dis, c'est eux les plus heureux, vraiment ? Vous êtes sûrs ?
C'est moi, j'aimerais incroyable. Bien voir ces études-là parce que je suis un peu, surprise.
Ouais, c'est incroyable. Je vais vous mettre un lien dans la description. D'ailleurs, ouais, je pense qu'il faudrait qu'on fasse ça un petit peu plus souvent parce que quand on a fait l'épisode sur les clochards de l'amour, vous étiez nombreuses à nous demander c'est quoi encore le jeu de cartes dont vous avez parlé, etc. Je ne sais pas si on avait bien prononcé le nom de la marque. Donc, il faudrait que... commence à mettre un peu de liens en fait dans les descriptions des épisodes, comme ça vous retrouvez tout. Mais je me note ça, en tout cas, ouais. Des stans, vraiment, ça vaut des études, ça j'en suis d'accord, mais je me demande en fait.
Mais est-ce que ces gens-là travaillent
dans 10 ans? Mais ces gens-là travaillent parce que justement ils s'unissent. Et en fait, tu sais, quand je prends un exemple, ben, pour nous en fait, tu vois, on est là, on travaille sur le thé noir. Des fois, je vais avoir besoin d'un truc et tout. Je me dis, bah, tu sais quoi, au bureau, il y en a, je prends. c'est tout bête. Je me dis, ouais, je vais prendre tel truc, ça me servira pour le podcast, etc. au bureau. Et ben, je suis sûre qu'elles s'organisent de la même manière. Genre, par rapport au job qu'elles ont, elles peuvent se permettre d'avoir des informations. T'as peur. Imagine, t'es une barbe et tu travailles à la police. T'as accès à des informations.
D'ailleurs, Non, mais ça me fait penser à deux choses. Première chose, le nouvel album de Taylor Swift est sorti et apparemment, oui, dans cet album-là, elle a encore un diss track contre Kim Kardashian.
Je savais
Et
même pas qu'il y avait des
apparemment,
diss
entre
tracks,
le.
elle. Ah bon?
Apparemment, il y a une chanson qui parle encore de ce qui s'est passé, l'incident avec Kanye West et Kim Kardashian. Enfin, j'ai pas écouté cet album-là,
Ça
mais
date quand
grosso
même, hein.
modo.
Ouais.
Bah oui, mais grosso modo, suite à la sortie de l'album de Taylor Swift, Kim Kardashian a perdu 100 000 abonnés.
C'est incroyable. Ah mais oui, c'est vrai que
Donc, du
eux
coup,
aussi, les
cette.
Swifties, là, elles sont dangereuses.
Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, tu viens de dire ça. Et une deuxième chose sur le fait que tu dises que quand on a des. Il suffit d'avoir quelqu'un, de connaître quelqu'un. Je lisais un article cette semaine, apparemment. L'appartement de Kalash criminel a été cambriolé. Et il y a un mec qui disait, en fait, comment ça se fait que le nombre de cambriolages dans les domiciles de célébrités, c'est de plus en plus courant, en fait. Il y en a de plus en plus, c'est hyper ciblé. Tu vois, c'est pas comme s'il y a eu plein de tentatives. C'est genre, ils savent tout de suite, ils vont pas toquer à la mauvaise porte, ils savent exactement où aller, ils prennent ce qu'ils ont
C'est
à
vrai que c'est
prendre et ils
arrivé à
sont.
Fally aussi pendant une cérémonie. Ils savent exactement quand
Ouais.
venir.
Et
Ouais.
ben, du coup, il y a quelqu'un. Alors, je ne sais pas comment ils ont eu cette information, mais grosso modo, ils disaient, ben, vous savez, il suffit de connaître quelqu'un aux impôts et c'est bon, quoi.
C'est incroyable. Ouais.
C'est
Ah,
fou,
mais tu sais, quand je réfléchis comme ça, moi, je peux sombrer vite, hein, parce que ça me fait rentrer dans une spirale. Je me dis, mais en fait, si quelqu'un te veut du mal, il peut vraiment tout mettre en œuvre pour te détruire. C'est incroyable.
hein.
Ça fait tellement
Exactement.
peur. Et ça me rappelle une conversation qui a eu sur l'album de Beyoncé. On va pas en parler à chaque épisode, hein, je vais arrêter. Mais quand même, quand Cowboy Carter s'est sorti, il y a une femme blanche américaine qui est infirmière. Elle s'est filmée sur TikTok dans son uniforme d'infirmière en train de traiter Beyoncé de négresse et de dire, ouais. T'es là en train de parler du fait que t'as inventé un genre, etc. Alors qu'à l'époque où ce genre est inventé, vous étiez en train de ramasser du coton. Et en gros, déjà de un, je me suis dit, il y a des gens qui sont vraiment stupides de se filmer et de dire ce genre de choses à découvert avec ton uniforme du travail. Enfin, inutile de dire
Comme si on
qu'elle a
n'allait
perdu
jamais te
son job.
retrouver.
Ouais, voilà. Elle a perdu son job, mais je ne doute pas qu'elle va retrouver du travail dans le domaine médical très vite. Et en fait, quand tu réfléchis comme ça fait tellement peur parce que tu te dis, elle est dans le médical. Comment elle traite les patients noirs? Comment elle les traite? Et après, on
Mais
nous
ça,
dit qu'il
c'est
n'y a pas de
partout, hein.
racisme systémique. Mais ça me fait tellement peur, en fait, quand je suis dans des réflexions comme ça. Je me dis, mais je ne sais pas à qui j'ai affaire dans des moments cruciaux de ma vie. Imagine, tu es sur la table d'opération et tu sais pas que le gars, je sais pas, moi, il a une carte de membre du KKK.
Mais alors
Il va
attends.
faire exprès d'abîmer un truc dans ta chirurgie. Enfin, je ne sais pas. Ça fait trop peur.
Non mais alors ça me fait penser à un épisode de Grey's Anatomy où un monsieur refusait qu'un médecin des épisodes qu'ils ont tournés qui ont simulé le Covid et dans Grey's Anatomy, il y avait un
Oui.
médecin asiatique qui devait le soigner et le monsieur refusait en fait.
Ouais, ils
Et
disaient
donc je pense
ramenez-moi
qu'il
un
est
autre
quand même allé
médecin.
au.
Ils ont ramené tous les médecins
Voilà, ils l'ont.
asiatiques, genre voilà.
Et voilà, c'est tout ce qu'on a sous la main, donc soit vous mourrez pas. Et je crois qu'il avait en plus il avait une croix nazie en tatouage sur lui. Et
Oui,
genre,
ça
ils ont
c'était un
fait
autre
exprès
épisode, je
pendant
me
l'opération.
rappelle. Je me rappelle de ça
Ah oui, bah
aussi.
voilà, encore un autre épisode où ils ont fait exprès dans l'opération de détruire la croix nazie. Genre, ah vraiment, on n'avait pas le choix, quoi. On avait
Du coup, vous avez un
vraiment.
plus maintenant.
Désolé, quoi.
Ah,
Et
je te jure.
du coup, ça me fait. Tout ça me fait penser. Alors, on va encore faire du commérage. Mais,
Yeah!
tu vois, Issa Rae, quand elle avait fait un tapis rouge il y a quelques années, on lui avait dit, ouais, qu'est-ce qui vous voulez soutenir, etc. Et elle disait, bah, en fait, moi, je soutiens toutes les personnes noires. Et du coup, c'est devenu un peu une blague récurrente. C'est que quand elle vient sur un tapis rouge, elle dit, ça bouge pas, je suis là
Ça
pour
bouge
soutenir
pas,
les
ouais.
noirs. Ça
C'est
bouge
devenu la
pas.
référence
Ça.
pour tout le monde maintenant. Ouais.
Voilà, donc elle, à chaque truc qu'elle fait et tout, et qu'on essaye de lui demander, elle dit, ah, ça a toujours pas bougé, toujours les noirs, 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 noirs. Et là, il y a une interview qui est sortie que j'ai commencé à regarder. J'ai pas complètement fini, je pense
Ah,
qu'il
je l'ai
me reste
regardé
une
en
demi-heure.
entier. J'ai tout mangé.
Celle de Amanda Seals avec
Ah ouais, je l'ai trouvée
l'autre là.
excellente l'interview. Ouais. Mais du coup, je
Voilà,
sais
j'ai
pas, je fais
regardé, je
des
pense.
commentaires ou pas, parce que je sais pas jusqu'où t'en es. Parce qu'il y a tellement de points à
Ben en fait,
retirer intéressants.
là, moi, j'ai regardé, je pense, toute la partie sur Issa Rae et
Ah, ok.
son le moment où elle était sur Insecure, etc. Parce que l'interview, elle est longue. Je pense qu'elle fait une heure et demie ou un truc comme ça. Bon,
non,
bref, j'ai vu 45
heures.
Minutes.
Il y a 3 heures.
Voilà. Dans mon cerveau, tu vois, vraiment, je... Donc, j'ai regardé les 50 minutes où elle parle du fait qu'elle était diagnostiquée sur le spectre de l'autisme, etc. Uh-huh. Et que du coup, il y a certaines interactions où les gens peuvent la trouver bizarre. Mais en fait, elle comprend pourquoi il y a certains gens, certaines personnes qui sont... comment elle réagit d'une certaine façon par rapport à certaines situations, etc. Et mmh. toute la partie où elle parle de ce qu'elle a vécu quand elle était sur Insecure, des machins, du fait qu'il y a eu des commérages sur le mec qui a eu un enfant avec une actrice, et que, où elle est partie le voir en lui disant « Mais fais gaffe, en fait, tous les gens sont en train de parler de toi, moi je te dis ça juste comme ça, mais fais attention. » Le mec, il a retourné sa veste contre elle, etc. Et comment les gens, ils disaient, entre Issa Rae et Amanda Seals, qu'il n'y avait pas de, lien, etc. etc.
Oui.
Je ne vais pas tout vous raconter, on mettra le lien aussi de l'interview et on en reparlera sûrement soit sur les réseaux, soit sur, dans un autre épisode. Mais ce que je voulais retirer de tout ça, c'est de dire qu'on peut être pro-noir et en même temps ne pas être en capacité d'aider tout le monde ou de soutenir tout le monde. Et la nuance que... Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que ça apporte de la nuance. Parce que dans ce que disait Amanda Seals, c'est qu'elle n'en veut pas à Issa. Elle lui dit, je peux lui en vouloir sur certains aspects, mais l'opportunité qu'elle a et le nombre de personnes qu'elle emmène avec elle, oui. on pourra trouver ça que bien, en fait. Donc, j'apprécie la nuance de, c'est pas parce qu'on est noir qu'on est censé être amis, mais on n'est pas obligé de se détruire dans le process.
Exactement.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je suis trop d'accord. En fait, c'est pour ça que je me disais qu'en fait, l'interview, c'est vrai qu'elle est très longue, mais si vous pouvez prendre au moins le temps de regarder la partie juste où elle parle de Issa Rae et de Insecure, cette partie-là, elle dure
si vous avez 45 minutes.
Ouais. Et franchement, ouais. moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son podcast Small Doses aussi. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle ait vraiment pris le temps de bien exposer les choses sans venir en disant... j'ai des receipts, écoutez, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. À aucun moment, elle a été vindicative. Et c'est, je pense que limite, c'est d'utilité publique pour les femmes noires, tu vois, de regarder ça, en fait. C'est une bonne gestion de conflit. C'est une très bonne gestion de conflit,
oui.
en fait. Et j'ai beaucoup
et
aimé,
coup...
en fait, qu'elle ait pu avoir le temps de venir dans cette émission, qui, pour moi, en plus, cette émission, ça devient vraiment un mix entre tribunal du peuple
non,
et
c'est la cour des miracles.
Thérapie. Ouais, mais et entre sessions de thérapie, c'est... parce que ça fait vraiment genre, personne ne voulait m'écouter pendant des années, je disais quelque chose, personne ne m'écoutait. Maintenant, je peux venir chez Club Shay Shay, et Club Shay Shay, c'est un des rares trucs où tu peux t'asseoir pendant 3 heures et raconter toute ta vie, et il va pas t'interrompre.
Ouais, mais tu vois, le truc qui m'a dérangée, vraiment ce que j'ai senti, c'est qu'elle était beaucoup plus intelligente que lui. Et c'est
non, mais attends,
dans le sens...
si on parle de Shay Shay, Néné, à chaque fois qu'il parle... Tu sais ce que j'entends? J'entends. Je comprends pas bon. Ce mec.
Non, mais en fait, dans le sens où, tu vois, j'ai vraiment senti
oui.
que lui, c'est pas son taf. Et elle, comme elle est. Tu sais, si c'est pour une interview rigolote comme ça, machin, mais là, elle a quand même. Sur la partie que moi j'ai regardée, elle aborde des sujets sérieux. Et quand tu vois la réaction en face, t'es là, tu te dis, mais non, en fait, un bon intervieweur. Aurait rebondi différemment sur le sujet, tu vois. C'est juste
ah
cette
non,
partie-là.
Mais
après...
Attends, parce que si tu regardes les trucs qu'il a fait avant, je te jure que cet épisode, il s'est énormément amélioré. Hein. Parce qu'il y a des moments...
À un moment, à chaque fois, je voyais que des extraits.
Trucs, j'étais choquée, j'ai dit, waouh, pas Shay Shay qui réagit. Pas Shay Shay qui rebondit
Shay Shay a appris.
Comme un journaliste. J'étais choquée, je te jure que ça... C'est de loin la meilleure interview qu'il ait faite. Parce que d'habitude, les autres trucs, tout ce qu'il fait, c'est... What? No, they didn't do that. No, they didn't say that. Je te jure qu'il ne fait que ça en temps normal. Et là, sur cette interview, il y a certains points sur lesquels il a quand même rebondi, etc. Mais c'est vrai que, clairement, ben, de toute façon, elle explique son curriculum. La meuf, elle a un doctorat, je pense. Elle a fait tellement d'études différentes.
Oui,
elle a étudié
je sais.
À Columbia, etc. Ben, tu vois que c'est pas du tout le même niveau d'intellect, on va dire. Je dirais pas que c'est un mec qui est stupide, mais c'est pas du tout le même niveau d'intellect. Et d'ailleurs, il y a un moment dans l'interview que j'ai trouvé super hilarant, c'est qu'elle est en train de lui parler d'une expérience qu'elle a eue en tant qu'enfant, où elle explique que pour elle, elle a vécu du racisme d'autres enfants. Et lui, il est en train de lui dire, est-ce que c'est vraiment du racisme ou est-ce que c'était juste des enfants qui étaient en train d'être méchants? Et en gros, tu vois qu'elle le prend mal. Et en fait, c'est là que j'ai compris en fait tout l'aspect qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec Amanda Seales, c'est que elle lui a dit, yeux dans les yeux, elle a dit, tu sais, moi j'ai étudié ça. Quand je parle de race, je parle pas de race comme ça, comme si c'était une conversation de comptoir. J'ai étudié la race, en fait. Et elle dit, donc, est-ce que tu pourrais faire l'effort, s'il te plaît, quand je parle de questions de race, de partir du principe que peut-être, peut-être que je sais de quoi je parle, étant donné que j'ai étudié ça. Et elle disait, en gros, est-ce que tu pourrais ne pas être combatif tout de suite et d'abord partir du principe que peut-être que je sais de quoi je parle et ensuite on peut en discuter. Et j'ai trouvé ça tellement...
Oui, mais en fait, moi qui l'ai... Quand tu la suis sur les réseaux, etc., c'est son postulat de toujours. En fait, elle prend position sur des sujets sur lesquels elle maîtrise, en fait. Exactement. Et les choses où elle ne sait pas, elle va clairement dire, je ne sais pas, mais en utilisant juste mes neurones, voilà ce que j'en déduis. Exactement. Elle se positionne jamais en tant que personne puis de savoir.
Voilà, alors que Shannon, de son côté, il ne fait pas du tout ça. Il reçoit des gens, il écoute leurs histoires, et justement, ça lui a été beaucoup reproché dans les interviews qu'il faisait avant, que les gens viennent raconter des histoires, et lui, avant même de... En préparation d'une interview, normalement, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais si tu prépares une interview, vous savez déjà de quel point vous allez aborder. Donc toi, en tant que journaliste, tu dois faire tes recherches de ton côté. Donc si la personne que tu as invitée, elle vient, elle dit « Ouais, j'ai été sur la Lune », ben, j'espère que tu as vérifié qu'elle ne dit pas de la merde, tu vois. Et lui, il peut écouter des gens lui dire « J'ai été sur la Lune », il dit « Ah bon ? Ah ouais, c'est super, je suis super content pour toi », c'est tout, tu vois. Aucun double-check ou rien du tout, quoi. Donc ça, c'était, bref, c'était une parenthèse intéressante. Mais en tout cas, je vous invite vivement à regarder ça. J'ai vraiment trouvé ça intéressant par rapport au problème qu'elle a rencontré avec Issa Rae. Et ce que j'aimais beaucoup, en fait, c'est que bah, maintenant qu'elle a pu avoir le temps de se poser et pas juste de venir sur Twitter s'énerver ou de venir en live sur Instagram s'énerver, tu vois, elle a pris le temps d'avoir le bon médium, en fait, le bon canal pour expliquer ce qui n'allait pas, expliquer sa version des faits, en fait. Et je pense que ça, c'est ce que beaucoup de gens devraient apprendre à faire, en fait. Le fait de juste être dans la réaction plutôt que d'avoir une réponse posée, et ben c'est ça qui va faire que maintenant, je pense qu'elle va gagner un capital sympathie. Là, dans les réactions que j'ai vues, il y a beaucoup de gens qui disent « J'aime beaucoup ce qu'elle a fait, j'aime beaucoup ce qu'elle a raconté, etc. » Et il faut faire l'effort dans notre culture où on aime regarder les célébrités, de pas se dire non parce que Issa elle a fait tellement de choses pour la communauté, pour la culture, je refuse de croire qu'elle ait pu faire quelque chose de mauvais. Non, c'est un être humain.
Mais même au-delà de ça, c'est même dans nos vies à notre niveau, tu peux entendre des choses sur quelqu'un, mais laisse le temps à cette personne de te montrer qui elle est. Parce que moi, ça m'arrive de rencontrer des gens, tu vois. La seule truc que je crois pas, c'est les gens qui viennent vers moi et qui me disent, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'hyper sympa, hyper ouvert, hyper machin. Déjà, si tu dois parler de toi comme ça et te vendre, ça veut dire que c'est pas vrai. Laisse-moi le temps de me faire mon opinion où je te rencontre et je me dis, en fait, il est hyper sympa. Et de la même façon, ça peut aller dans les deux sens. Je peux dire, Anne, Daya, tu vas rencontrer ma pote Intel, tu vas voir, c'est une meuf qui est hyper drôle, elle a fait ci, elle a fait ça, machin, etc. Toi, tu vas la rencontrer, tu vas juste être là, genre, ben, elle vit pas à la hauteur de ce que tu m'as vendu. Et de la même façon, je peux te dire, ouais, bon, c'est ma pote, mais tu vois, elle est un peu comme ci, elle est un peu comme ça, et puis il y a ci, et puis il y a ça, et puis ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Et puis finalement, tu peux la rencontrer et tu peux te dire, ben, en fait, oui, Néné, elle m'a dit ça, mais en même temps, quand je la rencontre, enfin, moi, je le perçois pas comme ça, tu vois. Il y a aussi un niveau de sensibilité qui est différent, et il faut pas négliger l'aspect de que ta présence provoque chez l'autre. Parce qu'une personne va se comporter d'une certaine façon vis-à-vis de moi, mais elle va pas se comporter de la même façon vis-à-vis de Ndaya pour X ou Y raison. Et ça veut pas dire que parce que avec moi, ça se passe pas bien, que forcément, bah, cette personne, c'est une mauvaise personne. C'est juste que on n'a pas forcément d'atomes crochus. On peut être très proche, Ndaya et moi, et voir beaucoup de choses de la même façon. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne voit pas pareil. Et si on regarde nos cercles d'amis et le genre de choses qu'on fait, il y a des moments, il y a des gens qui diraient, mais comment vous pouvez être aussi proches l'une de l'autre? Parce que quand on élargit le cercle, il y a des choses qui, ça ne match pas, en fait. Mais parce qu'on a des intérêts différents, parce qu'on a des motivations différentes, etc. Et l'un n'empêche pas l'autre. Donc, Daya peut s'entendre très bien avec des personnes ou peut détester amèrement certaines personnes. Moi, je vais être là, je dis, ben, ils me font ni chaud ni froid. Ouais, ouais. Et vice-versa, ça marche dans les deux sens, tu vois. Le problème, c'est que On prend tellement pour argent comptant ce qu'on nous a dit sur les autres qu'on ne laisse plus la chance aux autres de nous montrer qui ils sont. Parce qu'on va te dire, comme on nous a vendu Cardi B comme c'est une nana stupide, mais elle fait du sens en fait. Elle fait du sens et quand tu te dis, bah, en fait, vous allez dire qu'elle est bête, que machin, etc., etc. En attendant, sa formule, elle fonctionne. Elle sait, ouais. Quand elle sort ses albums, elle a fait sa vie, etc. Donc vous pouvez parler, dire tout ce que vous avez à dire, mais dans le business, elle fait son affaire. Kim Kardashian, on peut l'aimer, on peut la détester, machin, etc. Mais s'il y a une personne sur cette terre qui nous dit qu'elle est bête, j'aimerais bien la rencontrer et qu'elle m'explique en quoi cette nana est bête.
Ouais.
Parce que construire un empire comme elle est en train de le construire, ce qu'elle va laisser à ses enfants. Ils font des cadeaux intelligents à leurs enfants. Même Kanye West, quand il était avec elle, il lui faisait des cadeaux intelligents. Il lui achetait des parts Apple, des parts Disney, des trucs comme ça. C'est pas un cadeau stupide. Oui, ok, il va lui acheter un sac Hermès, machin, etc. Très bien. Mais il va lui acheter des parts Apple à côté.
Exactement.
Parce qu'il dit, dans le portfolio déjà... Oui, même le sac à main, c'est un bon investissement. Mais tu vois, c'est comme on voit tous ces jeunes rappeurs qui sont là en train de faire bling-bling, en train d'acheter les nouvelles bagnoles, etc., etc. Mais c'est l'après. C'est comme un footballeur. Moi, je me souviens à l'époque, je crois que c'est les footballeurs 98. Ouais, c'est sûr. Les footballeurs 98, dans le lot de ceux qui ont gagné la Coupe du Monde, il y en a un qui est devenu pisciniste.
Tu vois ?
Et tu te dis, mais en fait, le mec, il a gagné... Bon, après, les piscinistes... Je pense qu'ils ne sont pas à plaindre, je pense qu'ils
gagnent bien leur vie. Ils ne sont pas à plaindre, mais par rapport aux millions que tu gagnes en tant que footballeur, ils sont très nombreux, les sportifs, à avoir ce genre d'histoire. C'est la débandade.
Voilà, où tu n'as pas préparé, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas réfléchi l'après. Quand tu arrives en tant que footballeur à 30 ans et que tu es encore sur les terrains à 30 ans, commence à préparer la suite. Ce n'est pas tout le monde qui va être Cristiano Ronaldo qui, à 37 ans, va encore signer des contrats à des millions et des millions. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, mais... Quand on arrive avec « Ah oui, mais telle personne, elle est comme ça, comme ça, comme ça », réservons aussi, nous, un peu d'espace, de marge de manœuvre, où on se dit que j'ai entendu telle chose sur telle personne, positif ou négatif, hein, mais laissez-moi me faire ma propre opinion sur telle personne. Parce que voilà. Et puis, il y a des gens, moi, ça m'est arrivé, il y a des gens que j'ai rencontrés, enfin, j'ai une de mes amies d'enfance, jusqu'à mes 10 ans, je ne pouvais pas la voir, hein. Je pouvais vraiment pas l'avoir. C'est-à-dire que quand on nous demandait dans notre rue de jouer ensemble parce qu'on était un groupe de copines, de faire des trucs ensemble, juste sa présence, ça m'exaspérait. J'étais là, oh, elle est encore là, elle. Mais aujourd'hui, je suis la marraine de sa fille. On est les pires.
Mais ça m'arrive. On est les pires. Je sais que tu sais, tu rencontres une personne. Non, avant même que tu rencontres une personne, on t'a déjà parlé d'elle. Donc tu te formes une opinion, etc. Et quand tu rencontres la personne en vrai, tu te dis, ah bah non, c'est quelqu'un d'autre. Ou alors même les gens vont te rencontrer toi et te dire « Purée, je suis choquée que tu sois comme ça, en fait. Quand je t'ai vue, je t'imaginais tel. »
C'est pour ça. Laissons-nous de la place aux gens de nous montrer qu'ils sont vraiment bons. Après, quand ils nous ont montré qui ils sont, on les croit. On n'essaie pas de dire « Oui, mais c'est parce que, en fait, c'était le rétrograde de Mercure, mais en vrai, de vrai, c'est pas une personne comme ça. »
Mais tu vois, en fait,
arrêtons de tout mettre sur Mercure.
Amanda et Issaré. Ce que j'aime, en fait, c'est que... Après, peut-être que je fabule, hein, mais en fait, je ne serais pas surprise si dans 5 ans, dans 3 ans, eh ben, elles se reparlent et puis elles recommencent à se côtoyer, en fait.
Mais qui dit qu'elles ne se côtoient pas aujourd'hui?
Oui, non, mais c'est vrai. Qui dit qu'elles ne se côtoient déjà? C'est vrai. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant, où j'ai l'impression que... Je ne sais pas si c'est les réseaux qui jouent aussi sur ça, c'est qu'il y a une facilité à condamner un acte qui a été un acte qui était négatif. Tu vois, une personne a fait quelque chose de négatif et on se dit, en fait, c'est terminé. J'ai appris que tu avais fait telle chose négative. Je veux plus jamais entendre parler de cette personne. Voilà, je mute son nom, etc. C'est terminé.
Exactement.
En fait, pour moi, je me dis toujours, faut pas oublier que ça, vous pouvez le faire sur les réseaux, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Ça ne marchera jamais comme ça. C'est illogique, en fait. Tu peux... Faire preuve de maturité aussi, c'est comprendre qu'une personne peut te décevoir, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle doit complètement sortir de ta vie, tu vois. Il y a un juste milieu quand même, tu vois. Vous pouvez avoir une incompréhension ou à un moment donné où vous avez peut-être même une dispute, mais tant qu'on n'en vient pas à des choses criminelles, en fait, il est toujours possible de continuer à maintenir une relation avec une personne, en fait. Et quand je le dis, j'ai des exemples précis dans ma tête où je sais que même dans le cadre du thé noir, en fait, il y a des trucs... il y a des situations qu'on a vécues, on a été un peu déçus, on a été un peu secoués, on s'est dit mais pourquoi ça s'est passé comme ça, je comprends pas, etc. Mais ça veut pas dire que bah, cette personne, voilà, on va plus jamais lui parler, parce que voilà, tel jour, quand on l'a vu une fois dans notre vie, il s'est passé ça, etc. Bah non, ça veut pas dire qu'on va plus du tout côtoyer la personne, mais ça veut juste dire que maintenant, avec le recul que vous avez et avec les différentes situations que vous avez vécues, vous êtes capable de savoir qu'est-ce qu'il faut attendre de cette personne ou qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qui ne vous surprendra pas en fait. C'est surtout ça, tu vois.
Exactement. Donc,
voilà, un très bon exemple cette conversation. Et bah, pour finir sur une note positive, moi j'aimerais bien vous donner des devoirs hein, comme j'aime bien faire. Et l'exercice ce serait juste de se dire bah, déjà de 1, personne ne vous dit dans cet épisode qu'il faut arrêter de commérer. Je suis personne pour dire aux gens d'arrêter de commérer, c'est pas grave. Si c'est vos 5 minutes par jour, elles vous font du bien, il n'y a pas de souci. On se comprend, on sait pourquoi il y a certaines pages qui ont des millions d'abonnés et d'autres qui n'en ont pas autant, tu vois. Donc ça, c'est pas un problème. Mais l'exercice que je donnerais, ce serait de faire un ratio, en fait, du nombre de conversations que vous avez par jour, par semaine. Et ça, c'est un truc que je fais aussi. Et vous demandez, en fait, ben voilà, sur les 15 conversations que j'ai eues aujourd'hui, il y en a combien, en fait, qui étaient liées au commérage? Il y en a combien qui étaient négatifs? Il y en a combien qui étaient inutiles? Et franchement, je veux dire, à force de faire cette analyse, vous allez vous rendre compte que des fois, vous mettez votre énergie dans des trucs, mais c'est abusé. Et en fait, c'est vraiment lié au fil d'informations qu'on reçoit, en fait, des fois. Tu vois, quand tu disais Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, eh ben, il y a combien de personnes qui m'ont envoyé des trucs là-dessus, et je leur disais gentiment, genre, merci de ne pas m'envoyer ce sujet, il ne m'intéresse pas.
C'est-à-dire que ça cesse ici.
Non mais vraiment, c'est genre, ici ça ne que m'intéresse ça pas, cesse. Vous n'êtes pas obligé de vous investir dans tous les sujets d'actualité, genre, je ne connais même pas Inès Reg, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas. Natacha Saint-Pierre, ça faisait genre, je ne sais pas, 15 ans, je n'avais pas entendu son nom. Danse avec les stars, je ne regarde pas, je ne sais même pas si j'ai déjà regardé un seul épisode de la version française, et j'étais vraiment en train de me dire, en fait, on n'a pas besoin de mettre notre énergie partout comme ça, en fait. Laissez-moi économiser ma salive dans des choses qui m'intéressent, qui vont peut-être m'apporter quelque chose. Et je vous jure, ça va vous faire un bien fou. Ça va vous faire un bien fou. C'est magnifique. Et surtout, et je trouve que c'est encore plus intéressant quand vous parlez avec des membres de votre famille, de votre entourage, etc. Et vous allez vous retrouver dans une situation où la personne, elle vous avait rien demandé, mais vous êtes au bout du fil, elle commence à commérer sur d'autres personnes, tu dis... C'est très simple, vous faites juste « Ah ben, merci, c'était super de parler avec toi, je vais devoir te laisser, merci beaucoup !»
Allez, tu sais, bye.
On n'a vraiment pas besoin de s'investir comme ça, vraiment pas besoin, je vous jure, ça va vous faire du bien. C'est mon exercice pour la fin de cet épisode. Léné, tu veux ajouter quelque chose?
Qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment, après avoir commérer sur le dos de tout le monde?
Je te jure, qu'est-ce qui me rend heureuse? Alors franchement, je sais pas si c'est parce que mes règles arrivent, mais je me sentais trop émotive là ces derniers jours, c'est grave. J'étais en train de me dire en fait qu'il y a beaucoup de choses dont je me plaignais il y a quelques années, etc. Et en fait, je trouve qu'on a une facilité à se plaindre de choses qui nous vont pas, mais une fois qu'elles sont réglées, on s'habitue tellement à ça qu'on passe tout de suite à autre chose, à un autre truc qui nous dérange qu'on veut régler en fait. Il y a plein de petites choses comme ça sur lesquelles je me disais, en fait, je sais que j'aurais passé une nouvelle étape de confort dans ma vie une fois que j'aurais telle chose. J'aurais passé une nouvelle étape de sensation d'accomplissement une fois que j'aurais telle chose. Et j'arrêtais pas de me dire ça. Et là, je me suis rendu compte, en fait, un jour, j'étais posée, j'étais en train de boire mon café, tranquille, je regarde par la fenêtre et je me suis rendu compte, mais en fait, ça, je l'avais dit, mais ça y est, en fait, j'y suis, c'est abusé. Et ce matin même, franchement, c'est grave. J'étais en train de... J'ai déposé ma fille à l'école en retard, ma fille aînée. Et en fait, on était juste en train de marcher tranquillement dans la rue. Il faisait beau, je prenais mon café, elle était en train de me raconter sa vie à l'école, etc. Et en fait, j'étais en train de me dire, purée, mais il y a genre 6 ans, vraiment, il y a 6 ans, on s'est posé avec mon mari, on était dans notre chambre, on était en train d'écrire sur les murs, on était en train de faire un plan et de se dire, ouais, en fait, la France, c'est fini, il faut qu'on fasse ça, 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 et on va pouvoir s'installer en Angleterre. Et je me rappelle tellement, genre, j'ai une mémoire tellement claire de ce moment où on est posé, on est en train d'écrire sur les murs, il faut qu'on ait autant d'argent de côté, il faut qu'on fasse tel truc. Parce que ma première, justement, elle entrait en maternelle, et on s'est dit, on ne peut pas laisser la petite commencer l'école primaire en France, parce que ce sera un nouveau cycle, il faut qu'on soit parti avant ça. Et là, je suis en train de parler avec elle, en route pour l'école primaire, à Londres. Elle parle même plus français, en fait. Elle parle même plus français, donc c'est genre, je suis même plus dans la même vie, en fait. Je suis dans une autre vie, là. Et j'étais, en fait, je l'ai déposée, je lui ai fait un câlin, et j'ai senti les larmes monter. Je me suis dit, purée, qu'est-ce qui m'arrive?
Les hormones.
J'étais vraiment, je suis rentrée chez moi, vraiment, avec les larmes aux yeux, et j'étais tellement reconnaissante. Je me suis dit, vraiment, il faut que je fasse l'effort, en fait, plus souvent de me poser comme ça et de célébrer, en fait, les moments que j'ai réussi à mettre en place. Parce que dans ma tête, quand on s'est posé et qu'on s'est dit qu'il faut qu'on fasse ça, c'était de la folie. Quand je l'ai annoncé aux gens, on me disait « Ouais, vous êtes sûr, vous allez vraiment le faire ?» Et on était là si, on va le faire, on va le faire. » Mais même nous, dans nos têtes, on se disait « Putain, j'espère que ça va se faire quand même, sinon c'est gênant. » Mais là, c'est fait. Donc là, qu'est-ce qui me rend heureuse, ben, je suis super reconnaissante. Je suis trop reconnaissante de ce qui se passe dans ma vie. Et toi?
Ce qui me rend heureuse en ce moment, c'est les chats noirs. Parce que j'ai une petite superstition avec les chats noirs que je ne vais pas dévoiler ici.
Sinon, ça va plus marcher.
Qui me connaissent, que ceux qui me connaissent savent.
Non, moi, je suis sûre que tu l'as déjà dit dans un autre épisode.
On va pas dire. Donc, je garde ça pour moi. Et. Parce que d'ailleurs là on est en train d'enregistrer, mais il y en a un qui s'est venu se poser là face à moi, voilà.
Il
m'a dit coucou. Et redécouvrir les dessins animés que j'ai beaucoup aimé quand j'étais enfant, les regarder avec mes nombreux enfants. Pour n'en citer qu'un par exemple, c'est Il était une fois la vie. C'est la série de Il était une fois, là c'était vraiment. Ça, les Princesse Sarah, Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac, toutes ces choses-là, Olivier Tom, l'École des Champions.
Bang, bang.
Je suis un enfant du Club Dorothée. Donc voilà. Voilà. Et donc là, redécouvrir, le week-end dernier, j'étais à Londres chez Ndaya et avec son fils, on a regardé « Il était une fois la vie » et il fallait le voir comment il était posé, collé, serré, en train de me dire « Mais là, c'est quoi ? Mais est-ce que ça, c'est des germes ? Est-ce que ça, c'est bien ? Mais ils sont où les méchants ? Mais pourquoi lui, il l'a poussé ?» J'étais là, j'ai dit « Oui, c'est ça, on comprend comment fonctionne le corps humain. » Il m'a dit « Je veux regarder l'épisode sur la graisse et les muscles. » J'ai dit « Oui. » Il dit « Mais pourquoi ?»« Ah, c'est normal là. Qu'ils sont fatigués. » Il a dit « Mais c'est normal qu'ils soient fatigués. » Il a dit « On a parlé des neurones et tout. » Et il ne voulait pas s'arrêter. Je pense que si il avait le droit de regarder autant la télé qu'il souhaiterait, on aurait pu finir tous les épisodes d'Il était une fois la vie ensemble. Et je suis trop contente de regarder ça parce qu'il a plein de questions.
Il va compartimentaliser les choses là. Il va mettre tout en compartiment. Il va dire, ça, c'est le truc que je dois regarder avec Néné, avec personne d'autre.
Bah, c'est ça. Ouais. Il m'a dit, la prochaine fois, on doit regarder sur ce qui se passe dans la bouche et les dents. Et il m'a déjà fait sa commande.
Ça va le dégoûter.
Donc, je sais pas s'il y a vraiment des choses qui le dégoûtent. J'ai l'impression qu'il regarde les trucs avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt. Non, et qu'après, il prend des décisions.
Ah, c'était grave.
Non, mais on a l'impression qu'il est en train d'étudier. Et puis qu'après, il prend des décisions en disant, en fait, aujourd'hui, j'ai décidé que j'arrêtais les bonbons.
Oui, voilà.
Parce qu'en fait, j'ai regardé cet épisode, j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir sur mes dents. Donc, papa, maman, merci de plus me donner des bonbons. Donc, c'est ça. Redécouvrir tous les dessins animés que je regardais quand j'étais plus jeune avec mes enfants, c'est trop bien. Genre, Kirikou, c'est trop bien. Enfin, tous ces trucs que j'ai beaucoup aimé de voir, les regarder ensemble, c'est trop cool.
Grave. Super.
Voilà, écoute. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À votre tour de nous dire ce qui vous rend heureuse cette semaine. Vous savez, on va se retrouver sur Instagram, sur Twitter pour continuer ces conversations. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter bimensuelle. Et en attendant, on vous souhaite de passer une agréable journée. À bientôt.
Bye.